Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche,
scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête!
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
La France n'oubliera jamais le Bataclan. Le quotidien a peut-être repris son rythme de croisière depuis les attaques meurtrières qui ont coûté la vie à 130 personnes. Tout le monde se souvient de cette nuit d'horreur. Il y en a pour qui. Le calendrier s'est malheureusement figé sur le 13 novembre 2015. 3 ans après, nombreux parmi les anciens otages sont encore prisonniers de leur mémoire. Au lieu de s'estomper sous la patine du temps, le souvenir des attentats est toujours intact. Il suffit d'un bruit, d'un regard un peu trop appuyé, ou d'une odeur pour qu'il ressurgisse avec la force d'une hallucination. Le diagnostic tient souvent en 4 lettres. Les rescapés souffrent de troubles de stress post-traumatique, ou TSPT. Pour rompre la boucle, il faut d'abord la comprendre. Et c'est bien l'intention de l'étude Remember et de l'essai clinique Mémoire Vive. Lancés au lendemain des attentats, les deux projets s'appliquent à sonder, puis à penser, les plaies traumatiques des victimes. Car la mémoire peut être soignée, nous dit Hugo Jalinière dans le numéro de novembre de Science et Avenir. Merci Hugo pour cette petite note d'espoir.
Bonjour.
T'es désormais un habitué, je pense que nos auditeurs commencent à connaître ta voix. Bienvenue une nouvelle fois dans 6ème Science. À mes côtés, une des expertes santé de 20 minutes, Oyana Gabriel. Bonjour Oyana.
Bonjour.
Alors merci à tous les deux, vraiment, je vous le dis du fond du cœur, d'être venus nous apporter un petit peu de lumière sur ce sujet qui est quand même assez sombre. Hugo, je commence avec toi parce que j'ai besoin peut-être qu'on pose vraiment le décor sur ce sujet. Donc, les deux projets que j'ai cités, l'essai clinique Mémoire Vive et l'étude Remember, ont été lancés au lendemain des attentats. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
C'est ça, tout à fait. Au lendemain des attentats, et pour être précis, même le 18 novembre, donc 5 jours après, le directeur du CNRS de l'époque, Alain Fuchs, lance un vaste appel à projet sur la phrase qu'il utilise, c'est « toutes les questions posées à nos sociétés par les attentats terroristes ». Et donc un appel à projet, ça peut être de sciences humaines, mais de chimie, de neurosciences en l'occurrence. Le CNRS va recevoir en quelques mois plus de 300 propositions et il y en a 66 qui sont retenues, essentiellement en sciences humaines, donc sociologie, histoire, etc., et notamment le programme phare qui est l'étude des 1000, qui a consisté à recruter 1000 personnes en plusieurs cercles, les personnes directement victimes ou rescapées des attentats, celles qui vivaient dans les quartiers où se sont produits les attentats, une troisième dans la ville, Paris, mais qui n'ont pas été directement touchées, et enfin un quatrième cercle avec des gens complètement extérieurs à Caen ou à Marseille.
Un groupe témoin, quoi.
Voilà, un groupe témoin, même si ça reste des personnes...
Concernées, elles ont entendu parler des attentats, elles sont
la
françaises.
La France était touchée, voilà. Et donc, sur ce programme des 1000, il y a une étude, Remember, qui a été extraite, qui se base sur un certain nombre de participants à l'étude des 1000, et qui consiste à aller regarder directement dans le cerveau, par IRM, quels sont les mécanismes neuronaux qui entre en jeu dans la survenue d'un trouble de stress post-traumatique. Voilà. Et l'essai clinique, à côté de ça, a été lancé de la même façon quelques mois seulement après les attentats. Et lui a une visée thérapeutique et qui consiste à tester une thérapie importée du Canada pour atténuer les troubles de stress post-traumatique.
Ok, donc on va entendre beaucoup parler pendant cette émission de troubles de stress post-traumatique, TSPT. On est d'accord, c'est la même chose que le fameux PTSD américain.
Oui, tout à fait, c'est juste la traduction française, troubles de stress post-traumatique et post-traumatic stress disorder en anglais. Mais c'est la même chose que ce dont souffrent les soldats. Voilà, les soldats qui reviennent du front. Et puis, c'est quelque chose qui est vieux. En 14-18, on approche du centenaire de la fin de la guerre 1918. On appelait ça l'obusite. Et généralement, ceux qui étaient qualifiés de trouillards étaient fusillés.
Tiens, c'est curieux. Ils se promènent dans un souvenir qu'on a déjà effacé.
Joyeux. Alors, quels sont les critères pour qu'un événement, au lieu de devenir un souvenir qui, avec le temps, pourrait s'effacer, se transforme en trauma, quoi ? Qu'est-ce qui marche moins bien dans le cerveau ou qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une sorte de court-circuit, hein ? J'ai vu que c'était une expression que tu utilisais dans ton article.
C'est ça, oui. Il y a une espèce de... La façon dont se fabrique le souvenir est court-circuitée par l'intensité de l'émotion vécue au moment de cette expérience traumatisante. Donc, c'est une question d'intensité de l'expérience vécue qui en fait déclenche une hyperactivation de l'amygdale. Alors, en temps normal, un souvenir, même quand il est mauvais, ça peut être un très mauvais souvenir, il y a l'effet du temps. C'est évolutif, c'est une des caractéristiques d'un souvenir, c'est que c'est évolutif. Quand on s'en souvient à un certain moment, on s'en souviendra pas de la même façon 10 ans plus tard. La caractéristique du trouble de stress post-traumatique, c'est que le souvenir n'a pas pu se faire correctement. Donc, c'est cette notion de court-circuit. Ce qui se passe, en fait, c'est que on a des structures dans le cerveau qui sont chargées de réguler et de fabriquer ces souvenirs. La première d'entre elles, c'est le thalamus qui intègre les informations sensorielles. Le bruit, l'odeur, la vue, tout ça. Et cette information sensorielle, elle déclenche immédiatement l'amygdale qui, elle, va réguler notamment les hormones, l'hormone du stress, le cortisol. Ce qui se passe dans un événement traumatique, donc qui met en jeu la vie des personnes, soit de soi-même, soit des autres, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel on n'est bien évidemment pas habitué, c'est que ces informations hyperactivent l'amygdale. Et en temps normal, un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, le cerveau va construire ce souvenir en comparant cette expérience à ses autres souvenirs dans l'hippocampe. Or là, il n'a aucun point de référence et c'est en quelque sorte la panique dans le cerveau. Ce qui fait que la régulation des hormones naturelles, automatiques, en conditions tolérables, ne se fait pas. Et donc, il y a ce traumatisme qui s'inscrit profondément dans le cerveau et qui fait que certains éléments de la vie courante vont nous ramener à ce traumatisme et nous replacer dans la situation émotionnelle
qui a créé le trauma
à ce moment-là. Qui a créé le trauma.
Et qu'est-ce qui fait que justement le trauma il est enregistré avec cette exactitude ? C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien compris, hein, certains rescapés, par exemple, du Bataclan, revivent exactement la même scène qui a été enregistrée à 100%
tout
et ils la vivent comme une hallucination.
Tout à fait. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on ne l'a jamais expérimenté. Mais la patiente que j'ai interviewée, qui est une rescapée du Bataclan, qui est restée vraiment 2h30 avec les terroristes, otages, voilà, me racontait que pendant 2h30, elle tremblait de tout son corps, mais vraiment, des tremblements incontrôlables. Voilà. Et ce qui s'est passé chez cette femme, qui par ailleurs travaillait dans le milieu du spectacle, c'est-à-dire que quand on lui dit « on va aller voir tel spectacle », il y a certaines situations où elle se mettait à retrembler de la même façon. C'est évidemment très handicapant, et d'autant qu'il n'y a pas que les tremblements, il y a la peur qui va avec. Elle tremble de peur, une peur inexpliquée qu'elle ne peut pas raisonner, et qu'on ne peut pas calmer. C'est comme une hallucination, on sait qu'on n'est pas dans la scène, mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que la porte va s'ouvrir avec deux terroristes ouvrant le feu. Et c'est ça qui conduit aux stratégies, aux comportements d'évitement. L'élément cardinal, c'est ce qu'on appelle ces intrusions, où on a l'impression de revivre la scène, et ça découle sur le concept d'évitement.
Et Oyana, justement, là-dessus, tu voulais nous dire un mot ?
Oui, parce que du coup, voilà, on a parlé du cerveau, tout ce qui peut se passer, etc. Ça a vraiment un impact sur leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus prendre le métro, il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans certains endroits. Ces stratégies d'évitement, ça va se traduire par je ne vais plus à aucun endroit. Parfois, certains déménagent, changent de métier. Ça a un impact vraiment très fort sur leur vie quotidienne. Voilà, ils en souffrent vraiment tous les jours, même 3 ans après.
Et quand on parle de stratégie d'évitement, ça va jusqu'à quoi ? C'est-à-dire des gens qui ne vont plus au travail parce que justement, il y a des éléments au travail qui leur rappellent ou qui pourraient ressusciter cette hallucination.
Tout à fait. Moi, la patiente qu'on interviewe dans Science et Avenir explique qu'elle a changé de travail assez rapidement. Un an et demi après, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus travailler dans le milieu du spectacle. La salle de spectacle ou même la salle de cinéma est pour elle un environnement dangereux.
Tiens, Hubert. Au cas où les mémoires te revenaient, N'hésite pas, je t'appellerai Bill.
En fait, quand on vous parle de PTSD, vous pouvez penser par exemple à la série Maniac qui vient de sortir sur Netflix, où l'actrice, enfin Emma Stone, incarne justement une jeune femme qui souffre d'un traumatisme et qu'elle revit au sein de la série. Alors je veux pas trop la déflorer, je vous laisserai le plaisir de la dévorer parce qu'elle est vraiment pas mal. C'est conseillé par 20 minutes. Mais Oyana, pour moi, ça c'est un point important. J'ai l'impression que le PTSD ou le TSPT en français, il est très peu connu, voire peu compris par le grand public aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un problème pour revenir sur les victimes du 13 novembre. C'est très dur pour elles parce que 3 ans après, il y en a beaucoup qui vivent encore très très mal ce quotidien. Et c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Ma collègue donc de 20 minutes, Hélène Sergent, a interviewé 5 personnes qui ont été donc au Bataclan, au Carillon, qui sont toutes rescapées de cet attentat. Ce qu'ils expliquent, c'est combien le regard de la société a pu changer. C'est vrai qu'au début, il y a eu vraiment une empathie. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu. Aujourd'hui, les victimes du Bataclan parfois reçoivent des messages vraiment de haine. Et sans aller dans cet extrême-là, même au quotidien, il peut y avoir des collègues, des proches, la famille, qui leur posent des questions un peu gênantes. Mais pourquoi tu prends toujours pas le métro, tu supportes toujours pas les feux d'artifice, ah bon, tu veux pas d'enfants, enfin, des questions, voilà, c'est Catherine qui était interviewée par Hélène, qui disait, 3 ans après, continuer d'adapter son quotidien en fonction de ses séquelles, ça paraît fou pour les autres. Je trouve que cette phrase est forte, et elle dit, je le fais pas exprès d'avoir peur, c'est comme ça. Et je trouve que voilà, ça dit bien le fait qu'ils sont prisonniers de cette, ils subissent leur mémoire et que c'est très compliqué au quotidien.
Je crois que c'est un terme qu'on va peut-être pas forcément beaucoup utiliser dans l'émission, mais qui est assez important, parce que vous le trouverez ailleurs en ligne ou dans d'autres émissions qui pourraient parler des PTSD, des troubles de stress post-traumatique. C'est celui de la résilience, hein. C'est bien ça, c'est le fait de passer à autre chose et d'arriver à soit atténuer l'intensité de ces souvenirs, soit tout simplement de les enfouir. Enfin, je dis tout simplement, mais évidemment, c'est loin d'être simple, hein. On va le voir.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne m'en souviens pas. J'ai pris un cognard en pleine tête au bout de 2 minutes. Je me suis réveillé 8 jours plus tard.
Justement, Hugo, comment sont traitées aujourd'hui les personnes qui souffrent d'un TSPT ?
Alors, les thérapies classiques sont les thérapies cognitivo-comportementales, donc qui passent par un échange avec le psychothérapeute ou le psychiatre. Ça va être un échange d'infos, expliquer pourquoi est-ce qu'on a un PTSD, quel est le mécanisme, échange d'astuces, et puis la réexposition aux souvenirs vécus, qui est plus délicate évidemment, mais ça fait partie des pistes où on demande à la personne de se remémorer dans un cadre relativement contrôlé, voilà, sécurisé, ou de façon à en quelque sorte un peu mieux apprivoiser cette expérience traumatisante et lui redonner ce caractère de souvenir. Ce n'est qu'un souvenir, les probabilités pour que ça ressurgisse comme ça sont infimes. Voilà, essayer de rationaliser un peu ça. Il y a une thérapie qui est assez à la mode, qui est l'EMDR. Donc là, c'est une thérapie de désensibilisation et retraitement de la mémoire par les mouvements oculaires. Donc la personne se réexpose à son souvenir traumatique, et dans le même temps, il y a un exercice d'oscillation oculaire qui permettrait de faciliter la désensibilisation de ce souvenir. Alors ça fonctionne relativement bien. Le problème, c'est toujours la question des rechutes. C'est-à-dire qu'on arrête la thérapie et au bout de 6 mois, les troubles qui s'étaient un peu estompés peuvent recommencer à se manifester.
Okay. La technique que tu cites là, en gros, c'est pas de l'hypnose, c'est quoi exactement ?
Non, c'est pas de l'hypnose. C'est vraiment le fait de se concentrer sur des mouvements oculaires précis tout en réévoquant le souvenir traumatique, permet de créer une sorte
de dissociation
et de désensibilisation du souvenir.
Ok. Alors pour parler de l'étude qui nous intéresse, celle qui est un peu le point de départ de ton dossier, Remember, qu'est-ce qu'elle nous a appris cette étude ? Donc on disait tout à l'heure qu'en gros, on passait le cerveau de rescapés et aussi de groupes témoins et de gens qui avaient été exposés à l'IRM. Quelles sont les conclusions de cette étude ?
Alors, l'étude Remember, donc, qui est menée à Caen par le professeur Francis Eustache, expert de la mémoire, a cherché à observer les mécanismes d'intrusion, qu'on décrivait au début, et de résilience dans le cerveau de près de 200 participants. Et donc, il y a un groupe de personnes qui souffrent de PTSD, qui sont actuellement pris en charge. L'autre qui a souffert de PTSD, mais qui sont en voie de résolution. Et puis un troisième groupe contrôle, qui lui n'a jamais été exposé à un événement traumatique. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est un protocole un peu délicat. Francis Eustache m'expliquait qu'il fallait réexposer les personnes à l'intrusion, mais sans les choquer à nouveau. Donc ils ont fait un protocole où ils associent un mot à une image. De type, le mot écrit, c'est bateau, et l'image, maison. Et ils font surapprendre aux participants ces associations de telle sorte à recréer une intrusion expérimentale, en quelque sorte. Et ils se sont rendus compte que chez les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, l'intrusion expérimentale, ils n'arrivaient pas à la réfréner. C'est-à-dire que quand ils lisaient le mot bateau, ils ne pouvaient pas faire en sorte de ne pas voir l'image de la maison apparaître. Au contraire, dans le deuxième groupe, ils voient vraiment à l'IRM que l'image de la maison, sur le plan neuronal, est en train d'apparaître dans le cerveau des participants, mais qu'il y a des mécanismes qui contrôlent cette intrusion et lui disent « non, on ne veut pas de toi ». Et donc, l'image disparaît aussitôt. Donc ça, c'est la résilience. Ce sont des gens qui ont une capacité de résilience qu'ils ont mis en pratique à la suite des attentats. Et puis, le troisième groupe, contrôle, qui n'a jamais eu à gérer ces intrusions, où là, on leur disait empêcher l'intrusion de parvenir, et à l'IRM, il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'il y a un processus très naturel, il lisait bateau, et il lisait juste bateau.
Vous voyez là, monsieur Barish, je suis en train de créer une carte de votre cerveau.
Bon, au travail. Si on veut lancer l'opération ce soir, on a certaines choses à mettre en route.
En gros, le vrai problème, c'est-à-dire que si jamais il y a des éléments qui sont associés à ce souvenir traumatique, le cerveau n'est pas en fait en mesure de dissocier cet élément du concret, donc par exemple le métro ou un bruit qui pourrait faire penser aux attentats, des attentats eux-mêmes. Il n'arrive pas à faire le distinguo et donc il va rappeler automatiquement et sans pouvoir le contrôler, le souvenir des attentats.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher ce sentiment qu'il sait d'un point de vue rationnel, peu rationnel justement. Mais c'est le principe de l'intrusion. Et ce qui est très important dans l'étude Remember, c'est d'avoir réussi à établir trois schémas d'activation neuronale pour les malades, ceux qui vont mieux et ceux qui n'ont jamais eu de problème.
On va évoquer un autre projet, donc c'est celui qui est aussi au cœur hein, de cette émission, c'est le projet Mémoire Vive. En gros, le traitement des malades de TSPT se fait et s'appuie sur un médicament assez compliqué à prononcer, hein, qui s'appelle le propranolol, et sur la théorie, donc elle aussi assez compliquée à prononcer, puisqu'il s'agit de la reconsolidation mnésique. Oyana, est-ce que tu peux nous le décrire rapidement et simplement, s'il te plaît ?
Oui, je vais essayer de simplifier. Donc, moi, j'avais interviewé en novembre 2016, donc un an après le 13 novembre, Bruno Millet, donc, qui est psychiatre à la Pitié-Salpêtrière et qui coordonnait cette expérimentation, cette expérience mémoire vive. Il m'expliquait en fait que la thérapie donc, dure un mois et demi et en fait, on va mélanger deux choses. Donc, cette prise de médicaments, donc ce propranolol, donc c'est un bêta-bloquant en fait. C'est une molécule qui va atténuer la charge émotionnelle et en même temps, on va faire 6 séances de psychothérapie traditionnelle. Le but, c'est donc que ces malades aillent mieux et qu'ils arrivent mieux à vivre dans la réalité et à plus être victimes de ces hallucinations. Si cette expérience s'avère concluante, on pourrait utiliser cette thérapie donc innovante qui nous vient du Canada d'ailleurs, de façon systématique après des catastrophes, notamment tremblements de terre, catastrophes naturelles. Donc c'est quand même une expérience très intéressante, quoi. Donc moi, je l'ai interviewé un an après les attentats. À ce moment-là, il me disait qu'il y avait des résultats assez spectaculaires chez certains patients et qu'il y avait aussi certains patients qui avaient quitté l'expérience. Donc,
Oui, donc là, nos regards se tournent vers toi, Hugo. Donc là, on est 3 ans après. Quels sont les premiers résultats de ce projet de médical ?
Alors, les résultats ne sont pas publiés, évidemment, mais d'ici l'année prochaine, on aura des résultats fermes. Ce qui apparaît très clairement, c'est que chez la majorité des participants, les troubles sont très améliorés comparé à ceux qui n'en bénéficient pas. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir aussi si ces troubles sont améliorés à long terme ou pas. Et c'est pour ça que l'étude, alors en effet, c'est 6 semaines de traitement, c'est une séance par semaine, on prend le propranolol, on attend 1 heure, et après on se réexpose à un scénario écrit de l'expérience traumatisante. Toute la difficulté, là, c'est aussi de voir à 1 an ce que ça fait. C'est pour ça que l'étude prend un peu de temps. Mais nous, on a rencontré en fait la dernière patiente à avoir intégré l'étude et donc qui finira le protocole d'ici 1 an. Mais d'ores et déjà, ceux qui ont participé disent avoir ressenti une nette amélioration alors même qu'ils avaient pu suivre des thérapies cognitivo-comportementales par ailleurs. C'est d'ailleurs sur les conseils d'un ami que Dani, la patiente qu'on interroge, est venue intégrer ce protocole. Donc il y a de bons espoirs. Et puis par ailleurs, comme le disait Oyana, c'est que c'est une thérapie qui est importée du Canada, qu'il y a le professeur Brunet au Canada qui travaille là-dessus depuis de nombreuses années et qui, lui, a déjà publié des résultats très satisfaisants sur cette thérapie.
Moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans cette étude et ce qui en est dit, c'est le côté, on associe donc un médicament, donc le propranolol, pour ne pas le citer, et une technique où, en gros, il s'agit de revivre, de reparler du souvenir. Et en fait, j'ai l'impression, pour faire simple, qu'on réimprime en fait sur le souvenir traumatique une version qui, grâce peut-être au propranolol, est moins intense. Et on fait ça chaque semaine, on réimprime pour que, in fine, soit le souvenir soit quoi, plus flou ou moins intense, c'est ça ?
Non, c'est réduire la charge émotionnelle qui est associée à ce souvenir. Mais c'est exactement ça, en effet, on réimprime. D'ailleurs, la reconsolidation mnésique, la théorie de la reconsolidation mnésique, c'est que quand on se remémore un événement, il y a une phase de plasticité transitoire. Ils disent, en gros, quand on se le remémore, ça dure 5-6 heures où on peut le modifier avant qu'il se reconsolide dans la mémoire à long terme. Et c'est ça qu'ils essayent de faire. Et pourquoi le propranolol a un tel intérêt, ce bêta-bloquant qui est utilisé depuis les années 70, pas du tout pour ça, hein, c'est pour le cœur. Ils se sont aperçus qu'il réussissait à passer dans le cerveau, qui est déjà une spécificité de cette molécule. Et surtout que cette molécule venait bloquer les récepteurs neuronaux à la noradrénaline. C'est un neurotransmetteur qui module notre réponse au stress. Et donc, le stress qu'on va réactualiser en réévoquant le souvenir, il est bloqué à ce moment-là. Et donc, cette période de reconsolidation mnésique sert à modifier ce souvenir, en atténuer la charge émotionnelle, et le propranolol permet, dans le même temps, de réduire l'effet du stress associé à ce souvenir. Voilà.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Et quelle est la suite là-dessus ? Enfin, on imagine donc, Oyana évoquait des applications qu'on préfère après des catastrophes naturelles ou ce genre de choses. Enfin, donc, tu disais que les résultats de l'étude pourraient être connus l'an prochain. Est-ce qu'il y a une vraie suite ou est-ce qu'il faut attendre l'an prochain pour que potentiellement ce traitement soit étendu à d'autres types de troubles ?
Alors, quand on parle des catastrophes, etc., c'est toujours du trouble de stress post-traumatique. Par exemple, dans l'étude Mémoire vive actuellement, il y a des gens qui étaient victimes du Bataclan, des attentats de Saint-Étienne du Rouvray ou de Nice, mais aussi des victimes d'un ouragan.
Je crois aussi de viol. Il me semble qu'il m'avait des victimes de viol.
Très probablement, ouais. Il m'en a pas parlé, mais des victimes de catastrophes naturelles qui ont été intégrées à l'étude. Et c'est toujours le même système, c'est qu'on est confronté à une expérience dont on n'est pas prêt à digérer la charge émotionnelle. Une catastrophe naturelle, les gens meurent autour de nous, c'est une expérience traumatisante qui va donner ces troubles anxieux.
En gros, la conclusion, c'est reparlons-en en 2019 autour des micros de 6e Science.
Reparlons-en en 2019 autour du micro de 6e Science.
Très bien. Oyana, tu avais un mot à ajouter ?
Non, ça me fait penser au film Vice Versa. Tu sais, cette histoire qu'il y a une première mémoire et pendant 6 heures, on peut la transformer, ce souvenir-là, et qu'après, une fois qu'il est passé dans la mémoire de long terme, c'est beaucoup plus compliqué de le transformer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Tu sais, l'histoire de la boule qu'on va plus ou moins pouvoir modifier avant qu'elle parte.
Non, moi non, je n'ai pas vu le film, mais c'est précisément ça.
On se le note et ça permet, voilà, quoi qu'il voilà. arrive, de terminer sur une note assez positive, vu qu'on termine avec un beau Pixar, enfin Pixar Disney. Alors bon, on l'a vu, hein, 2019 sera peut-être l'année cruciale pour reparler de tout ça. On le voit, la page n'est pas tournée, elle le sera peut-être jamais. Alors pour les rescapés, on peut en tout cas espérer que le chemin de la résilience proposé par Mémoire Vive et Remember sont le bon chemin et qu'il leur rendra le quotidien plus supportable. Hugo Génière, donc j'en profite pour te remercier une nouvelle fois d'avoir défriché la voie avec nous.
Merci à toi de ton invitation.
Je rappelle que tu es spécialiste des questions de santé au sein de la rédaction de Sciences et Avenir. Oyana également, c'est ta deuxième participation et là encore, je tiens à te féliciter et à te remercier. Merci d'être avec nous.
Merci à toi.
Alors, avis aux curieux, vos yeux ont rendez-vous chez votre libraire pour en savoir plus et vos tympans devront attendre un petit mois pour le prochain épisode de 6ème Science. Si ce sont les doigts qui vous démangent, allez donc faire un tour sur notre page iTunes pour nous laisser quelques étoiles mémorables. J'étais obligé de faire un petit jeu de mots. Un commentaire, une question, une réaction, j'ai la solution, la boîte mail audio@20minutes.fr. A très bientôt et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts. Mon Dieu! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy,
Je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day. Like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-condition traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mudguard on the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.